France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle tient le premier rôle dans Vie privée de la française Rebecca Zlotowski. Elle est une des plus grandes actrices américaines. Jodie Foster sera mon invitée à partir de 13h. Et il y a des stars aussi au menu de la table ronde critique avec ses deux expos majeurs. Gerhard Richter à la Fondation Louis Vuitton et Georges Condo, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous écoutez les midis de culture, mais quel beau geste! Et pour débattre autour de la table des stars de la critique, évidemment, Stéphane Coréard, éditorialiste au Journal des Arts, bonjour.
Bonjour Marie et merci.
Corinne Rondeau, maître de conférence en esthétique et sciences de l'art à l'Université de Nîmes et critique d'art, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Über Malerei zu reden ist ja nicht nur sehr schwierig, sondern vielleicht sogar sinnlos, weil man immer nur das in Worte fassen kann, was in Worte zu fassen geht, was mit der Sprache möglich ist. Und damit hat ja eigentlich Malerei nichts zu tun. Denn Malen ist ja eine andere Form des Denkens.
Le peintre allemand Gerhard Richter qui nous parle de peinture et qui dit qu'il est difficile, voire dénué de sens, de parler de la peinture. La peinture est un mode de pensée en soi. On commence donc avec cette exposition monumentale à la Fondation Louis Vuitton qui lui est consacrée. 275 œuvres y sont présentées qui couvrent l'ensemble de la carrière de l'artiste, commencée il y a 60 ans et interrompue en 2017 quand Richter a choisi de cesser de peindre. Impossible de définir l'œuvre de Richter, né à Dresde en 1932. Il est de cette génération profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, puis par la vie à l'Est. Entre peinture abstraite et figurative, Richter ne choisit pas et navigue. On commence avec un avis en quelques mots. D'abord, Stéphane Coréard.
Ben oui, Marie, c'est la saison de la raclette, donc il était naturel qu'on nous propose une exposition Richter. Je le dis parce qu'on va pas forcément beaucoup rire en parlant de Richter, c'est pas l'habitude, mais c'est une exposition superlative, vous l'avez dit, j'allais dire une exposition superlative de plus à la Fondation Vuitton, toujours plus grand, toujours plus d'œuvres, mais ça permet d'évaluer presque scientifiquement l'importance réelle d'un artiste qui s'est très tôt figé en une statue du commandeur de la peinture contemporaine, à la fois gardien du temple, mais aussi peut-être fossoyeur. Bref, c'est une exposition assommante, dans les deux sens du terme, à la fois plombante et surplombante.
Corinne Rondeau, là-dessus, en quelques mots d'abord.
Alors, c'est superlatif parce que ça couvre 60 ans de pratique, donc c'est énorme, 275 heures. En effet, je me suis posé la question en sortant de l'exposition, suis-je le bon spectateur pour Richter, dans la mesure où ce qui m'est tombé comme affect, c'est un ennui mortel.
Très bien, alors on va y aller, hein, on va rentrer là-dedans tout de suite. Les superlatifs sont pas mal aussi de votre côté. Assommant, fossoyeur, Stéphane Coréard.
Alors dans la lignée effectivement de l'exposition qu'elle a récemment consacrée à David Hockney, la Fondation Vuitton a laissé la main totalement à l'artiste, qui a choisi ses commissaires, hein, et qui a eu le final cut de la rétrospective. Par rapport au précédent, je dois dire que la scénographie m'a plus convaincu, d'abord parce que les espaces sont ramenés à des dimensions presque domestiques, hein, plus intimes, en tout cas à l'échelle des œuvres, qui alternent les formats, parfois majestueux mais jamais démesurés, et puis la morcellisation des espaces de la Fondation Vuitton, qui parfois rend assez illisible le parcours avec ses cut-up comme ça, parce qu'on doit changer d'étage, changer de salle. Là, je trouve que ça suit bien le parcours de l'exposition, qui est un séquençage par décennie. Et de ce point de vue-là, l'exposition est honnête, puisqu'elle donne à peu près la même place à chaque décennie du travail de Richter sur 60 ans, et que donc, on peut vraiment voir comment cette œuvre s'est déployée. Ce qui m'a frappé, c'est que le vocabulaire formel de Richter, finalement, se met en place très tôt. Dans la première décennie, finalement, tout est là, en même temps, j'ai envie de dire. Les peintures floues d'après photo, qui commencent d'abord en grisaille, hein, en 63, et puis ensuite en couleur, en 66, et qui sont peut-être une des parties les plus célèbres de l'œuvre. L'abstraction géométrique, à tendance minimaliste, ça commence dès 66. Des jeux de verre, de miroir et d'acier, donc des sculptures, des installations dans l'espace, ça c'est 67. Et puis enfin l'abstraction gestuelle, d'abord en gris, à partir de 69, et puis en couleur, en 73, c'est le fameux côté raclette de l'œuvre. Dans les décennies suivantes, ces séries en fait sont reprises et développées quasiment simultanément à chaque fois, finalement, donc on les retrouve globalement dans chaque partie de l'exposition, mais on ne voit pas vraiment l'évolution dans chacune de ces séries, en fait. On a l'impression que c'est plutôt un acte de, un statement, je te dirais. C'est-à-dire que Richter pose un cadre théorique. Il essaye d'embrasser la totalité de ce qu'il entend être les possibles d'une peinture post-Duchamp, ce qui est son obsession. Mais il n'ouvre aucune porte pour les autres. En tout cas, il referme chaque porte qu'il a ouverte aussitôt pour s'assurer d'avoir aucune postérité, finalement. Après, la peinture de Richter, c'est le déluge. Néanmoins, si on y regarde de plus près, finalement, chaque série est l'extrapolation d'une tendance qui était déjà là dans l'art de son époque. Hein. Évidemment, le photoréalisme, à l'époque, a son versant critique, Sigmar Polke, qui est son camarade de jeu, je dirais, mais aussi Malcolm Morley, le Britannique, qui a vécu aux États-Unis et qui a dans des scènes de... par exemple, de famille en train de jouer sur la plage ou sur les paquebots, se retrouve aussi dans le travail de Richter, ou Gazurowski, dans la série Albertine disparue, lui c'est un Français, va encore plus loin peut-être dans l'interrogation du statut même de l'image. Effectivement, peut-être la spécificité de Richter, c'est que c'est un Européen qui regarde beaucoup l'art américain, je trouve. Hein. J'étais frappé par le fait, par exemple, qu'on retrouve le Warhol des Most Wanted Men, c'est-à-dire les hommes les plus recherchés, avec les portraits, on en reparlera, mais aussi Lichtenstein, Roy Lichtenstein, qui peint de manière très, à la fois pop, mais très, presque pointilliste, comme ça, un grand coup de pinceau, ce que fait aussi Richter sur la toile la plus grande de l'exposition, mais aussi James Rosenquist, enfin, tout l'art américain, mais fait par un Européen, à un moment où l'art américain était finalement peu connu en Europe.
Corinne Rondeau.
Oui, alors, en effet, ce que note Stéphane sur la répétition crée cet ennui mortel. Parce qu'effectivement, on n'a pas de développement à l'intérieur et tout est posé au tout début. Alors, il faut dire que quand même, pour Richter, tout commence mal. Hein. Il a un oncle qui est mort au front de la Wehrmacht. Puisque c'est, tout ça est peint, hein, ce sont des photographies qui deviennent de la peinture avec ce flou pictural qu'il va utiliser longuement et avec beaucoup de séduction pour beaucoup de monde. Hein. Il y a la tante qui était déficiente mentale, qui a été stérilisée puis assassinée. Le père au banc de la société suicide. Bon, bref, donc ça commence mal. Et l'autre bout de l'exposition, c'est quand même Birkenau, c'est-à-dire quatre grands tableaux abstraits sur les quatre photographies des Sonderkommando qui avaient été récupérées. Et donc il l'a fait, je crois, en 2017. 2014, je crois, la série de photographies qui sont maintenant, il y a des photographies qui ont été faites qui sont au Parlement à Berlin. Donc, je dois dire que c'est une histoire allemande, faite par un Allemand qui vient de l'Est. Vous parliez de Sigmar Polke tout à l'heure. Évidemment, il y a cette espèce de... Il commence avec du réalisme socialiste, c'est-à-dire il est empreint d'une idéologie autoritariste et il va passer le mur, avant le mur, il va partir à l'Ouest et il va passer au réalisme capitaliste. Mais il est toujours du côté du manche parce que, contrairement à Polke, il va faire quand même, je veux dire, c'est quand même, on dit, le peintre le plus connu, le plus vendu, le plus ceci. C'est lui qui porte déjà les superlatifs. Donc, évidemment, à chacun de pouvoir les mettre. Mais c'est vrai que dès le début, on a par exemple cette grande... l'absence et l'ennui, si vous voulez, à cause de la répétition, l'absence de développement dans son œuvre est aussi ce qu'il y a déjà au début, c'est-à-dire un travail qui est sur l'effacement. C'est un travail... On a une table, c'est la table, elle est badigeonnée sur le devant, c'est comme on voit vaguement des pieds de guéridon, et derrière il y a un plan blanc. Et ce plan blanc, comme une autre table, une table moderne après une table contemporaine après une table moderne, c'est comme si il n'y avait pas de virginité à ce temps qui arrive, parce qu'il y a aussi un Richter qui est marqué par une histoire allemande. Et cette histoire allemande, on la voit s'égrener au fur et à mesure de l'exposition, notamment la bande à Bader, les suicides, donc ces portraits qu'il fait flouter, qui sont quand même pas très agréables à regarder. C'est, en effet, moi, ce que j'ai vu dans cette exposition, et c'est ça aussi, est-ce que je suis le bon spectateur de Richter, c'est cette manière dont, en fait, il ne veut pas que quelque chose ait du sens. Ça ne se dit pas, par exemple, un des éléments symptomatiques de ce que je dis en termes d'effacement, il reprend l'Annonciation du Titien. Et il l'a fait varier en plusieurs tableaux, où on le voit de plus en plus de flou. Bien, l'Annonciation, c'est quand même l'incarnation du Verbe dans la chair. Et donc, effacer le Verbe, et c'est aussi ce qu'il a pu déclarer, hein. Il ne veut pas que le langage soit extrait d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment très compliqué pour un critique d'avoir à interpréter quelqu'un qui efface, voire même qui recèle quelque chose d'une propre histoire personnelle, même si on la voit comme ça apparaître dans un flou avec l'oncle, le père, la bande à Bader, Birkenau. Et donc, si vous voulez, moi j'ai besoin du sens. Alors là, il y a quelque chose qui s'effondre, et il y a quelque chose pour moi de cette manière de vouloir brouiller sans arrêt, de recouvrir. Et au bout d'un moment, même s'il passe par l'abstraction, je ne vois qu'une surface. Et cette surface, de deux choses l'une, où je la comprends comme je ne veux pas que vous ayez à dire quoi que ce soit. Et finalement, c'est aussi une force que les gens puissent se taire. C'est presque du Wittgenstein. Ce qui ne peut se dire doit se taire. Enfin, on ne peut le dire, etc. Ou alors, effectivement, vous parliez de fossoyeur dans votre introduction, Stéphane. C'est une manière de dire, je ne laisse à l'art qu'une surface où peut-être il peut y avoir quelque chose de nouveau. Parce qu'évidemment, cette indécision qu'il a, ce n'est ni figuratif ni abstrait, c'est les deux à la fois. C'est toujours une peinture de paysage qui est loin. C'est-à-dire parce que c'est flouté, donc même dans la proximité, c'est loin. Le modèle qui a fait reconnaître aussi quelque chose de Richter par rapport à Duchamp, c'est Betty descendant l'escalier, ou c'est sa fille Betty qui a la tête tournée.
Non, c'est Emma qui est sa première femme.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Betty qui se retourne, c'est pas Friedrich qui regarde la peinture pour contempler un horizon, c'est au contraire une femme qui se retourne, et c'est un père qui la peint, c'est-à-dire aussi une manière de protéger quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est une œuvre où il veut s'y voir, mais surtout que ça se taise. Mmh. Et donc, évidemment, moi, je suis mal à l'aise quand j'ai 275 œuvres qui me disent « Tu n'as rien à dire, par contre, tu as à me regarder. » Et ça m'ennuie beaucoup, parce que le jeu du miroir qu'il y a dans cette exposition, puisqu'il travaille sur les miroirs, c'est une manière de dire « Je t'y mets dedans, quand même un peu, mais finalement, j'y suis toujours dissociée. » C'est par exemple le grand dispositif qu'il y a dans la salle Birkenau qui, moi, m'a mis plutôt mal à l'aise.
Pourquoi mal à l'aise ?
Ben, mal à l'aise parce qu'il y a justement ces miroirs derrière vous, qui vous mettent et qui veulent vous inscrire dans cette histoire qui est effacée. Avec quatre photographies, justement, des Under Commando. Et donc, à un moment donné, vous n'arrivez pas à trouver la... Pourquoi tairions-nous le sens de cette histoire ? Pourquoi taire ? Et moi, j'ai l'impression que le mot de fossoyeur n'est pas si mal choisi, Stéphane.
Stéphane Correa.
Oui, commentaire, aurait dit Michel Léris. Mais ce qui m'a, moi, dérangé, je pense que les auditeurs qui commencent à nous connaître peuvent le sentir, j'aime pas trop l'autorité. Et s'il y a un artiste autoritaire, c'est bien Richter. Vous avez parlé d'autoritarisme, c'est exactement ça. Par exemple, on apprend dans l'exposition et dans le catalogue, mais on pouvait s'en douter, qu'il a décidé quel serait le premier numéro de son catalogue raisonné, c'est-à-dire de son œuvre. Normalement, elle commence là où l'œuvre a commencé. Voilà, lui, il a décidé, il a tout détruit, puis ça commence là. Il a fini, il a décidé de finir en 2017. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle absolu, même sa documentation photographique, son fameux atlas, s'écrit atlas avec un grand A. C'est pas uniquement des photos que j'ai dans mon tiroir, c'est un atlas. C'est-à-dire, c'est un peintre monde, Richter. Il veut prendre absolument toute la place. D'ailleurs, quand il sculpte un crucifix, il est dans l'exposition, en or, il le fait à ses proportions. Hein, donc c'est-à-dire c'est la taille de sa tête, la taille de ses bras et la taille de ses jambes.
Mais il ne serait pas le premier artiste à être totalement
non, mais ça m'a gêné, par exemple, la manière, je trouve aujourd'hui, très malaisante, diraient les jeunes, dont il intègre son cercle familial à son œuvre. Trois femmes successives, des enfants. Par exemple, je suis très interrogé quand je vois qu'il peint Isa Genskene, qui est une artiste nue, certes de dos, mais après leur séparation. Pour moi, un homme qui peint son ancienne femme nue, je ne sais pas à quel point elle est d'accord, mais ça m'a gêné. La manière dont il peint aussi sa fille, effectivement Betty, un de ses tableaux les plus célèbres, au moment où elle fuit son objectif, c'est aussi une manière assez autoritaire de la rattraper et de la ramener. Alors, de la ramener où, justement ? Ce que je trouve intéressant, et je rebondis tout à fait sur ce qu'a dit Corinne, c'est qu'au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une œuvre abstraite qui n'arrive rien n'a incarné, effectivement. Dans la salle Birkenau, ce qui est effectivement très gênant, c'est qu'on nous dit qu'il a fait ces grands tableaux qui font 2,60 m par 2 m en reproduisant fidèlement les photographies qui ont été prises par des prisonniers en août 44, d'accord ? Mais que ce serait tellement... il aurait été tellement submergé par l'émotion où c'est tellement impossible qu'il les aurait recouverts par une peinture abstraite, il faut le croire sur parole, donc c'est une espèce de métalangage qui est au-dessus de l'œuvre. Ces peintures abstraites n'arrivent pas évidemment, à dire l'horreur de ce qu'était Birkenau. Donc, il met les quatre photographies au mur. Alors, donc, c'est une espèce d'aveu d'échec. Et puis, effectivement, le miroir qui nous prend en étau, si ce n'est en otage. Mais c'est pareil, pour les tableaux photoréalistes, puisqu'il y a plein de paysages, de fragments de paysages, où il nous dit, c'est des trucs sans qualité, c'est un bout de grange, un truc. Et puis après, une fois de temps en temps, c'est la bande à Bader. Mais je ne comprends pas le sens que tout ça, effectivement, veut prendre. Et ça nous laisse, effectivement, muets. Et ça, c'est un acte d'autorité, pour moi, insupportable.
Gerhard Richter, c'est jusqu'au 2 mars à la Fondation Louis Vuitton, commissaire Dieter Schwarz et Nicolas Serrota.
Et oui, maintenant, Corinne Rondeau, c'est l'heure de votre coup de cœur.
Oh merci, c'est une exposition qui se trouve à l'Atlas, la galerie l'Atlas, donc qui s'intitule Untitled Passport, qui est une œuvre, en fait c'est le titre d'une œuvre de González Torres qui est exposée. Ce sont des passeports qui représentent des nuages, des oiseaux, donc pas du tout le document légal pour passer une frontière. Et évidemment, un passeport, on se pose la question quand on ne peut plus passer la frontière, et c'est de cette impossibilité que l'association porte ouvertes sur l'art, depuis plusieurs années, travaille avec des exilés et dont l'année dernière nous avions fait d'ailleurs une critique avec Stéphane, Dislocation au Palais de Tokyo, pour rendre justement visibles ces artistes en exil. Et cette exposition montre à la fois des artistes qui sont plutôt connus et d'autres qui le sont moins. C'est une manière de faire un éclairage, d'exiler les uns avec les autres dans cette communauté d'expatriés, on pourrait dire. Donc c'est une exposition qui est touchante, qui est bouleversante à certains endroits, mais aussi puissante, je dirais, qui traite à la fois de la photographie, puisque le commissariat est fait par Julien Friedman, assisté d'Aline Aglaïa. Donc photographie, on est dans le cadre aussi de photo Paris, et de vidéo. On a des artistes donc palestiniens, togolais, afghans, ukrainiens, russes, des artistes donc qui sont là pour nous faire voir au-delà de la frontière en quoi la puissance de l'imaginaire, la manière de créer aussi, est une manière non pas d'être, je dirais, loin de tout, mais au contraire au cœur des choses, au cœur d'un travail de combat aussi, qui forme des capacités à former des contre-récits. Je pense par exemple à Ramal Al-Jafari, avec son travail entre des documents qui ont été récupérés sur un vol de l'armée israélienne sur le lieu à Beyrouth en 82 de l'organisation de palestinienne. Je pense à rappeler aussi comment derrière les autorités, l'autoritarisme russe, finalement il y a des femmes russes là dans l'exposition, Ludmila Zinchenko ou alors Anna Germoleva qu'on avait vue à la Biennale de Venise, qui est exposée aussi ici avec sa pièce qui renvoie au lac des cygnes, puisque chaque fois qu'il y a un problème en Russie, il y a un trouble politique, à la télévision on envoie le lac des cygnes, et elle le reprend pour justement faire apparaître le désir de changement, puisque c'est une phrase qu'on emploie aujourd'hui en Russie pour dire des choses pas aimables sur Poutine. Ou à regarder vers l'horizon, cette Afghane qui vit aujourd'hui à Zara Kodadi, qui vit aujourd'hui à Nice, qui fait une photographie avec des gens qui se baignent. Ce sont des jeunes qui ont fêté leur diplôme. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant ces corps jeunes dans l'eau, parce qu'il y a deux personnes dont je me suis dit, mais c'est pas d'ici. Mais oui, c'est d'ici. C'est d'ici aussi qu'on peut voir l'horizon. Il y a quelque chose d'un horizon qui est appelé dans cette grande photo, qui est douce et en même temps où il y a quelque chose qui nous appelle d'aller plus loin, c'est-à-dire... C'est des questions de combat aussi, et donc de refuser l'ordre établi, et de rappeler aussi l'espèce humaine, c'est qu'on est du même sens. Et là, je pense à Ludmila Zinchenko, qui a fait une œuvre avec son propre sang.
Merci beaucoup, Corinne Rondeau. Toutes les références sont évidemment sur la page des Midi de Culture.
The more you know about art, the more you see how great it is. And the more you feel how great it is, the more you feel like you want to be part of that greatness. And to learn how to do it.
Le peintre Georges Kondo qui nous dit « Plus vous en apprenez sur l'art, plus vous en percevez la grandeur, plus vous la ressentez et plus vous avez envie d'y contribuer et d'apprendre à en faire ». Là encore, c'est une exposition d'ampleur au Musée d'art moderne de la ville de Paris, avec 80 toiles, 110 dessins, une vingtaine de sculptures. C'est la plus importante consacrée à cet artiste américain, né en 1957. Passionné, grand connaisseur de l'histoire de l'art, Kondo joue avec les tableaux de maîtres dont il déforme les visages, il reprend les motifs. Proche de Basquiat et de Kaysaring, ceux du graphe sont aussi présents dans son œuvre, et tout est mis au service d'un regard assez inquiétant sur l'inhumanité. On commence par un avis très court parce qu'il nous reste peu de temps finalement. Corinne Rondeau.
Je dirais que j'ai vu une exposition où ça pouvait être le petit-fils de Goya mais sous overdose de Smarties.
Stéphane Correa.
Oui, c'est un autre grand anthropophage, un pillard, un ogre boulimique, mais dont le modèle serait plutôt Picasso, alors que Richter, lui, est obsédé par Duchamp. Il est aussi grand peintre, d'ailleurs, que Richter est un redoutable dialecticien. C'est donc une exposition effectivement superlative, mais en même temps terriblement lacunaire, parce qu'elle occulte systématiquement la partie problématique de l'œuvre de Kondo. Je dis problématique avec des guillemets, en tout cas pour Un artiste qui, comme lui, est devenu une tête de gondole du marché de l'art. Sa dimension contestataire, érotique, voire pornographique, politique. Mmh. Rien de tout ça n'est dans l'exposition.
Ouais. Alors, Corinne Rondeau, vous êtes d'accord avec ça?
Ça, je suis d'accord.
Toute une
ça.
Dimension a disparu de Kondo dans cette
expo. Oui, tout à fait. On est rentré dans l'exposition Mayol en 2009, montrer effectivement ses excès, ses Falstaff. C'est-à-dire, c'est le comique, c'est le type qui parle avec des choses, il a toujours quelque chose dans la bouche. Il y a quelque chose, c'est vrai, c'est un soifard, c'est un ricaneur, c'est quelqu'un qui a une énergie. Alors moi j'aime beaucoup ces excès. La première salle dans laquelle on rentre, c'est du noir. Il y a des formats qui sont très prenants. Moi j'ai beaucoup apprécié la première salle et aussi cette manière abstraite à la fin avec des noirs très profonds. Mais l'exposition est assez mal foutue dans la mesure où en fait, pour éviter, je pense, de rentrer dans ce qui pourrait froisser la sensibilité des spectateurs aujourd'hui en 2025, mais aussi pour essayer de calmer cette espèce de polymorphie vraiment de sa peinture, ils ont voulu donc catégoriser. Il y a le côté obscur, il y a le réalisme artificiel, les collages combinaisons. Donc on passe de salle en salle et en fait, ils ont voulu éviter l'idée, mais est-ce que ce serait pas un imitateur Kondo? Finalement, il prend des trucs, il les reprend, etc. Et je pense que finalement, cette exposition, à vouloir échapper à ça, ne fait que démontrer que c'est un imitateur. Or, l'exposition de Mayol en 2009, moi, ne m'avait pas du tout laissé ce sentiment-là. Au contraire, c'est un type qui est totalement borderline. Et quand, par exemple, il dit des choses comme « Ma mémoire est composée de fragments que je veux mettre en état de continuité », ça marche quand on le met et qu'on aurait fait une exposition bordélique. Eh ben, ce bordel, c'était la tête aussi de ce qu'il appelle ses collages, ses combinaisons, où tout n'est pas de briques et de broc, au contraire, parce que je pense qu'il a une manière de se dire « Moi, je suis pas dans la censure, mais surtout, je suis un peintre post-moderne. » C'est-à-dire que, d'un coup, ce type s'est mis au bout de la chaîne, et s'est dit, je regarde le passé. D'ailleurs, il parle dans un entretien du catalogue, il parle d'une mèche qui serait allumée dans une grotte, mais moi j'ai l'impression qu'effectivement, il a mis le feu dans la grotte et il a tout fait péter. Et donc, il essaie de repeindre quelque chose à partir. Et puis, c'est ça ce qu'il appelle la fausse peinture européenne. Lui aussi fait défaut. Oh tiens, on dirait un Velázquez. C'est pas un Velázquez, mais c'est moi. C'est pas lui, c'est moi. Le faux, et c'est une manière d'assumer une place qui est une place quand même malaisée, mais avec une sorte de non-censure absolue. C'est ça qui m'intéresse. Et je dois dire que, concernant les bustes, les visages qu'il fait en bronze, moi j'étais stupéfaite, parce que il a une manière de faire des visages, par exemple, bon, c'est du cubisme, vous avez toujours des trucs globuleux, des yeux verrons, etc. Et ses mâchoires à l'envers, vous avez l'impression que ça peut pas parler. Là encore, c'est difficile de parler sur du Kondo, mais vous avez la mâchoire à l'envers, comme si ça ruminait vers le haut, hein, ça mastique vers le haut. Et il a cette manière de fermer la bouche avec des dents comme ça. Donc c'est très effroyable. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est la tête qu'on a de l'intérieur. Et les bronzes sont sublimement effrayants, que j'ai beaucoup aimé. Et certains types de peintures que j'ai aimé, notamment les premières, mais aussi les grandes abstraites à la fin. Mais je pense parce que c'est de la psychologie aussi qu'on voit beaucoup chez Kondo. Mmh.
Stéphane Correa.
Oui, en effet, le parcours essaye de mêler le chronologique et le thématique, mais c'est vrai qu'il est du coup difficile de percevoir l'évolution. On commence par des grands portraits, on finit par des grands portraits. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a une image absolument géniale dans l'exposition qui est ponctuée par des portraits de Kondo qu'il montre à Paris, puisqu'il a vécu près de 10 ans à Paris, hein, dans un appartement haussmannien assez kitsch, avec des appliques dorées, comme ça, à pampilles. Il est dans une chemise Oxford immaculée, et il mange des cornflakes Kellogg's en sirotant un verre de Grand Bordeaux. Je crois que c'est du Lafite Rothschild, si j'ai bien connu l'étiquette. Et sa peinture, c'est exactement ça, en fait. C'est il engloutit des siècles d'histoire européenne de la peinture, mais sans mâcher, il fait passer ça avec une grande, giclée de Lafitte Rothschild. Il y a cette puissance, effectivement, typiquement américaine. On pense à de Kooning, je trouve beaucoup. Oui. Warhol, il y a les doubles portraits, les quadruples portraits. On sait qu'il a commencé chez Warhol. Guston, qu'on peut voir aussi en ce moment au musée Picasso, à Basquiat, voire même Kenny Scharf, d'autres graffeurs, un petit peu des gens comme ça, qui ont cette vraiment énergie délirante. Et puis, effectivement, je sais pas s'il est arrivé à peindre comme le Tintoret, comme le disent les cartels. Raphaël, mais en tout cas, il a bien digéré, ça c'est sûr. Picabia, Dubuffet, Magritte, Masson, il y a un dessin. On jurerait que c'est un dessin d'André Masson, et sans compter ses contemporains qu'il a aimablement pillé, comme Milan Kunk, qui a été son colocataire, qui est tchèque, ou Sue Williams, une artiste américaine géniale. Contrairement à Richter, dont les dessins m'ont paru totalement anecdotiques et vraiment dénués d'intérêt, la salle des dessins effectivement et gravures dans l'exposition est peut-être là où finalement on touche au plus proche de cette folie furieuse de Kondo. Il y a des dessins qui, je crois, datent de quand il avait même 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un joyeux bazar, avec là justement un petit peu de sexe. Il y a un nu en résille à tête de chien qui tient une cigarette alors qu'elle a des gants comme ça, longs comme le bras. Mais c'est vrai que, je reviens quand même là-dessus, il y a des séries, des pans entiers de son œuvre qui ont disparu de l'exposition. Une des œuvres les plus connues, c'est quand même la pochette de disque qui a été censurée, qu'il a fait pour My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de Kanye West en 2010. Hein. C'est une femme blanche, une chimère, sans bras, avec des ailes, qui chevauche le chanteur, tous les deux nus. C'est peut-être une des icônes de la pop culture de ces dernières années. Elle n'est pas là. Il n'y a pas non plus les orgies décadentes qu'il a imaginées à la Maison Blanche, dans la foulée de l'élection de Trump, qui sont absolument géniales. Les prêtres et les nonnes qu'il a ridiculisées dans les années 2000.
Il y a une explication à l'absence de ces toiles?
Je pense que c'est juste parce qu'il est devenu un produit de marché. D'ailleurs, il vient de quitter sa galerie à Hauser & Wirth, qu'il avait peut-être un petit peu trop cadenassé pour revenir dans ses galeries, initiales, qui sont peut-être, qui acceptent peut-être mieux ça, comme Scarstedt. On peut encore les trouver d'ailleurs sur le site. Et il paraît qu'au vernissage, il a justement beaucoup parlé de Trump. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de se déverrouiller. Et ça va, à mon avis, ça va donner quelque chose d'intéressant.
Corinne Rondeau, un dernier mot en peu de temps.
Non, je dirais que... Allez donc voir ça avec un bubblegum.
Ah oui, j'ai pas compris l'histoire des Smarties, moi.
Les Smarties, c'est parce qu'il y a de la couleur partout, parce que c'est déformé, et puis parce que c'est un côté explosif de couleur. Voilà. Et puis parce que c'est le noir de Goya contre la couleur. Et puis par ailleurs, voilà. C'est... Moi, j'aime beaucoup un tableau qui s'appelle Yellow Black Composition. Et en fait, c'est une espèce de bouffon. C'est un personnage qui ressemble à un Smarties, justement, avec des oreilles de on ne sait pas quoi. Et donc, je trouve que le titre qui rappelle la peinture moderne, mais qui est vu sous l'aspect d'une sucette, eh ben, moi ça me fait hurler de rire, et je trouve que c'est une manière aussi de se dire la peinture c'est génial, mais en même temps on peut en rire aussi.
Merci beaucoup Georges Kondo, c'est jusqu'au 8 février au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, commissaire d'exposition Edith Devanet et Jean-Baptiste Delorme. Corinne Rondeau, Stéphane Coréard, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture aujourd'hui. Toutes les références de ces expositions dont nous avons parlé, dont le coup de cœur de Corinne Rondeau aujourd'hui, seront évidemment sur la page des Midi de Culture. Maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée.